Je suis d'accord que ça te remet un peu les choses aussi en perspective. Et je pense qu'en fait, moi, c'est ça que ce que la maternité m'a vraiment aidé à faire, c'est de remettre le travail en perspective et de me redire, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte, le travail.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Trois vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est avec Justine, donc salut Justine.
Salut.
En tout cas, re-salut.
Re-salut, ouais.
Parce que pour les gens qui écoutent Histoire de Daron ou Histoire de Daronne, ils t'ont peut-être pas encore entendu parce que peut-être qu'ils n'écoutent pas Histoire d'argent.
Malheureux, c'est une erreur.
Vous devriez. mais en fait, vous êtes venu avec ton mari, Thomas, dans Histoire d'argent il y a quelques semaines maintenant, pour venir parler de votre histoire de couple. Et je me suis rendu compte, en remontant notre fil de mail ensemble, que tu m'avais envoyé un mail en mois de juillet, donc il y a un peu plus longtemps, au mois de juillet dernier, où tu voulais parler de maternité. Et d'argent et de réussite.
Ouais, je me suis dit, après, je sais pas si c'était argent, tu vois, en réfléchissant, si c'était argent ou travail. Mais bon, vu que le travail est souvent un peu lié à l'argent.
Alors, dans l'épisode d'Histoire d'argent, donc je mettrai un lien pour les gens qui l'ont pas encore écouté, c'est hyper intéressant. Tu le mentionnes à un moment donné. Tu te dis, ok, il y a un moment donné où je me suis dit, maintenant il faut que j'y aille et que j'aille chercher plus d'argent. Et que ça a été une vraie démarche consciente de ta part, certes, mais aussi de la part de Thomas, ton mari. Mais ça m'intéressait, en fait, de te faire parler dans l'histoire de Daron, de à quel point, et de creuser un peu plus ce sujet, parce que c'est vrai que t'en parles comme ça très rapidement, mais bon, c'était pas forcément le sujet. Le sujet, c'était de parler de votre relation de couple et de l'argent. Donc, on peut faire, ça serait cool, je trouve ça cool de faire un épisode d'histoire de Daron où on va parler d'histoire d'argent. Ouais. Et aussi, en fait, ce podcast, enfin, cet épisode, je veux aussi le mettre dans Histoire d'argent, parce que, après tout, hein, c'est un vrai sujet, j'ai l'impression.
Bah, je pense que oui. Enfin, en fait, c'est d'ailleurs effectivement, j'en parle à un autre moment d'ailleurs, dans l'épisode d'Histoire d'argent avec Thomas, sur le fait que je voulais pas que l'argent soit un facteur dans ma décision, notamment d'avoir des enfants ou notamment d'avoir plus d'enfants à un moment donné. Et parce que je pense que pour le coup, alors je dis ça, moi en tout cas je l'envisage comme ça, mais je pense qu'il y a plein de gens aussi qui vont peut-être, chez qui ça va peut-être résonner, le fait de se dire quand on veut avoir un enfant supplémentaire, il y a quand même une question qui se pose, c'est est-ce qu'on est en capacité de l'assumer. Et ça, moi j'avoue que mon premier enfant...
L'assumer financièrement, tu veux dire.
Oui, financièrement, ouais, exactement. Alors après, il y a toutes les autres questions. Est-ce que t'es prêt mentalement, etc. Enfin, est-ce que c'est le bon moment dans ta vie? Est-ce que c'est le bon couple et tout? Mais il y a un moment où il y a un truc un peu opérationnel qui se passe, du type, ouais, concrètement, ça coûte combien un enfant? Alors moi, nous, on a fait notre premier enfant totalement de manière... on n'y a absolument pas réfléchi. Après, on s'est un peu rendu compte que, ouais, waouh, en fait, ça coûte de l'argent. Mais du coup...
Rappelons que vous vivez à Paris.
Oui.
Et que ça
amène
aussi...
Après, je pense que ça coûte de l'argent un peu partout.
Ça coûte de l'argent partout, mais je crois que ça coûte d'autant plus d'argent à Paris.
Parce que, en fait, ça coûte de la place ne serait-ce qu'il faudrait avoir un appartement avec un peu plus de place, etc., que la place à Paris, ça coûte très cher. Mmh. Et après, il y a des choses aussi, je me suis rendu compte d'ailleurs qu'on l'avait pas trop factualisé dans l'épisode, mais t'as aussi un côté, comme on le disait, nous, on gagne de l'argent, on gagne pas mal d'argent. Et du coup, le corollaire quand même, et je trouve ça encore une fois tout à fait normal, c'est que les choses nous coûtent plus cher que quand on, parfois on en gagne moins. Je m'explique, mais typiquement, c'est vrai que déjà on a de la chance d'avoir accès à une crèche, bon, qui n'est pas une crèche municipale, mais néanmoins on a quand même réussi à avoir une place en crèche. Et néanmoins, la crèche, pour mon aîné, elle nous coûtait genre 1200 balles par mois.
Waouh!
Ouais! Donc, ce qui est quand même moins cher qu'une nounou. Hein. Enfin, voilà. Mais, et moi, je préfère par ailleurs la crèche. Mais c'est, voilà, c'est un bulge, quoi. Et c'est vrai que nous, quand on y allait, on n'avait pas du tout.
Voilà,
on
y allait.
Voilà, fleur de fusil, exactement. On y va, c'est génial et tout. Mais on est.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pas du tout anticipé complètement. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont bien mieux organisés que nous et qui anticipent ce genre de choses.
Oui.
Mais en tout cas, la question de la relation entre avoir des enfants et pouvoir les supporter financièrement sur le court terme, mais aussi sur le long terme, de dire est-ce que s'ils font des études, je vais payer leurs études, est-ce que... enfin, je vais être capable de leur faire profiter de choses... je sais pas, enfin aussi de choses, peut-être que quand on avait, nous, on a eu la chance d'avoir un certain nombre de choses, d'avoir des activités extrascolaires, des trucs comme ça, ou des vacances sympas et tout, bah pareil, enfin à chaque fois c'est des choses qui s'ajoutent et tout ça, et donc voilà, et donc si on veut avoir plus d'enfants,
faut aller chercher
voilà,
plus
faut
d'argent.
Aller chercher plus d'argent, et moi je m'étais dit, c'est vrai que c'est un truc, enfin, et à côté, bah plus d'argent généralement signifie de plus de travail. Et du coup, ça pose la question de ton modèle aussi de famille ou en tout cas de maternité. Tu vois, enfin, pour moi, au-delà du modèle de famille, peut-être ta relation. Voilà, mais ça, on en parlera plus tard. Moi, j'ai une relation là-dessus. Ça a éclairé beaucoup de choses aussi sur moi, mon enfance, quoi.
Je sais pas si t'écoutes Histoire de Daronne, mais c'est un sujet dont on parle mal de à quel point et beaucoup plus que. Pour les mecs d'ailleurs, je trouve. Il y a vraiment une vraie différence entre l'impact qu'a la maternité sur les mères par rapport à l'impact que peut avoir... Et je parle de l'émotionnel, mais bon, après, c'est par rapport à la... Globalement, hein, sans vouloir mettre les gens dans des cases, mais globalement, les mecs et les émotions, c'est compliqué.
C'est pas encore...
Work in progress, quoi.
Oui. Non, mais il y en a après qui arrivent... dans l'histoire de Daron, il y en a qui arrivent...
Oui, bien sûr.
Vachement excédé, je trouve, alors...
Mais...
C'est pas forcément la norme.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a un truc, moi, qui me fascine toujours, c'est ce truc d'avoir un être en soi, en fait. Tu vois, c'est un truc, je crois, qu'en tant qu'homme...
Ah bah c'est sûr
c'est
que...
impossible de se l'imaginer, de se le représenter, de même se dire qu'est-ce que ça fait, quoi, tu vois, c'est...
Mais je pense même en tant que femme, tant que tu l'as pas... Enfin, c'est un peu le truc galvaudé, mais tant que tu l'as pas vécu, c'est très compliqué d'expliquer...
Ce que ça fait.
Enfin, tu peux expliquer. Moi, j'ai eu cette discussion il y a pas très longtemps avec ma petite sœur qui a une fille là, il y a 6 mois, qui était sa première, et un soir, elle est arrivée en me disant « Putain, mais tu m'avais pas dit que c'était ça, ça, ça !» Et je lui dis « Si, si, mais en fait, je pense que juste tu l'as entendu peut-être, mais tu l'as pas compris complètement, parce que c'est pas possible de le comprendre complètement tant que tu ne l'as pas vécu. »
J'ai une amie qui me disait « Je croyais que je savais ce que ça voulait être de fatigué. »
Et puis après, tu découvres des nouveaux paliers, en fait, que tu connaissais.
Ça me fait penser à dans Histoire d'argent, où je sais plus quel invité qui disait derrière la montagne de l'argent, il n'y a rien, alors que Sébastien. Derrière la montagne de la fatigue, tu découvres qu'il y a des nouveaux niveaux de fatigue. Il y a quelque chose derrière la montagne de la fatigue.
C'est sûr. Et c'est impossible de le comprendre tant que tu l'as pas vécu et que tu t'es pas retrouvé face à ce mur, quoi.
Et
souvent, plus tu vas le prendre en pleine vitesse, pleine gueule, quoi.
Je pense que combien même t'es super préparé. Moi, je pense comme plein de nanas, j'ai écouté plein de podcasts sur la maternité. Je pense que c'est le truc un peu en commun, c'est que ce soit ceux qui y vont la fleur au fusil, que ce soit ceux qui y vont en ayant lu tous les almanachs possibles et imaginables et tout. En fait, le point commun, c'est qu'ils se sont tous retrouvés à un moment genre « Ah ouais, merde, ça s'est pas passé comme prévu. » Ah ben non.
Ouais, et je vais interviewer là, dans 15 jours une nana qui ne s'est renseignée sur rien. C'est-à-dire que...
Non, c'est bien.
Elle était dans une découverte, ce qui fait que... Enfin, elle a un autre rapport à la maternité, j'ai l'impression.
Ouais.
Aujourd'hui, maintenant qu'elle est maman. C'est intéressant. On verra. Je spoil ça. Mais alors, Justine, ton désir de maternité, toi, il vient d'où?
Ben, je me suis posé des questions et j'avais pas... Alors, le moment vraiment où ça s'est débloqué, ça a été totalement instantané, je m'en rappelle très bien, le désir...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
J'ai envie de dire long terme, je saurais pas te dire. Je me suis toujours dit que j'aurais des enfants, mais je sais pas te dire si c'est un désir ou si c'est juste un peu passé comme ça. Enfin, dans la vie, voilà comment ça se passe. Moi, je viens d'une famille nombreuse. Je suis l'aînée, on est quatre. J'ai toujours vécu entourée d'enfants. Du coup, je suis très à l'aise avec les enfants. J'aime beaucoup les enfants. J'aimais beaucoup les bébés, même quand j'étais ado et tout. Et je me rappelle que... quand j'étais au collège ou au lycée avec ma meilleure amie, c'est un truc super chelou, on écrivait notre vie, enfin tu sais, on s'écrivait un peu notre vie genre...
adulte ?
Ouais, quand on sera adulte, tu vois, qu'est-ce qu'on sera, tu vois. Donc évidemment, moi je me rends compte que j'étais dans la reproduction totale, je me disais ouais, j'aurai un enfant, mon premier enfant à 23 ans, tu vois, parce que ma mère m'a eu à 23 ans, mais alors, spoiler alert, je l'ai pas du tout eu à 23 ans, parce que c'est beaucoup trop tôt. Enfin, tu vois, et donc du coup, j'avais quand même... Et à chaque fois, il y avait ce truc des enfants et tout. Et après... Le vrai moment où ça s'est débloqué, pour le coup, c'était pas du tout un truc réfléchi, d'où le fait qu'on y allait totalement la fleur au fusil. C'est vraiment, donc on était avec, l'histoire est assez marrante, on était avec Thomas, on allait, et en fait on avait, il y avait un couple d'amis de Thomas qui avait eu un enfant. C'était avant les vacances de la Toussaint, puis sur le chemin, nous on allait en week-end justement prolongé là, dans ma maison de famille en Bretagne. Et il se trouve que bon, c'était sur le chemin. Et du coup, on s'est dit, on va s'arrêter, on va dîner chez eux. Puis comme ça, on va voir le bébé et tout. Et puis, c'est cool. C'est l'occasion de passer, quoi. Et donc, du coup, on y a été. Et vraiment, ce qui s'est passé, c'est qu'on est ressorti de là, dans la voiture. On s'est dit, en fait, on a grave envie, non? Et ça s'est décidé là. On a fait genre, OK. Deux jours plus tard, tu vois, on était en Bretagne. Je lui dis, on était sérieux sur ce dossier ou pas,
on
tu
était
vois.
Trop bourré.
Mais même pas en plus, parce que tu vois, on prenait la route, on n'avait même pas. Et genre, on fait, ouais, ok. Et alors, le truc marrant, c'est que 15 jours plus tard, j'étais enceinte. Parce que ça a marché tout de suite.
Vous n'avez pas le temps.
Mais c'était vraiment genre, on a fait, ok, et ben voilà. Et donc, du coup, on n'était pas extrêmement... Enfin, on n'avait pas beaucoup anticipé, tu vois. On n'était pas hyper préparés.
Mais alors, qu'est-ce qui, avec le recul, vous a donné envie? Parce que j'ai l'impression que c'est quoi, c'est...
En fait, je pense qu'on c'était plutôt un révélateur. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, on en avait envie. En fait, je pense qu'on en avait envie vraiment tous les deux. On se l'était déjà dit, etc. Et comme je crois qu'on le dit à un moment dans l'épisode d'Histoire d'argent, mais on aimait quand même bien cocher des cases et tout, on avait quand même un plan global qui consistait à se dire à un moment on va se marier, après on aura des enfants, après machin. Tu vois. Et donc on n'était pas mariés, enfin on n'était ni même fiancés ni rien du tout. Et du coup,
vous n'aviez pas coché toutes les cases.
On
n'avait
pas coché toutes les cases. Non mais je pense que, enfin tu vois, c'est assez, c'est vrai, hein, c'est ça. Et du coup, on s'est, enfin, juste, bah voilà, vu qu'on n'avait pas coché la case d'avant, on, voilà. Mais en fait, on en avait très envie. Et le fait d'être face à ce truc-là, on s'est dit non, mais en fait, c'est
quand tu dis
cool,
ce truc-là,
enfin,
c'est
face à la
situation,
enfin face à vraiment, bah là, il y a un bébé et tout, et il y a un couple avec un bébé, et c'est, enfin, et en fait, enfin c'est. En plus, c'est même pas, c'était pas des, c'est pas des potes qui sont, enfin, avec qui on a énormément de similitudes dans les modes de vie, etc. Donc, c'était même pas trop, mais c'était plus, on s'est dit, mais, bah oui, mais en fait, on a envie. Tu vois, c'était plus le révélateur. Je pense qu'on s'est, ça a fait baisser tous les trucs de se dire, ouais, on n'a pas coché les cases et tout.
Un peu de spontanéité,
et,
quoi.
Exactement. Et je pense que ça nous a vraiment pris au trip. En tout cas, moi, je me suis dit à ce moment-là, en fait, j'ai envie maintenant. J'ai pas, et c'est totalement, con d'attendre d'avoir coché la case et tout, c'est pas grave, on fera après, ou tu vois, mais
un élan d'amour,
un élan de trucs, de se dire voilà, je sais pas, je pense qu'après moi je crois beaucoup aussi un peu à l'alignement un peu des planètes, tu vois, je crois qu'il y a des moments parfois voilà, il y a des, t'as des instants de clarté sur des choses que tu veux, et du coup faut, enfin je suis plutôt d'avis d'y aller dans ce genre de truc. En tout cas, c'est plutôt comme ça qu'on fait. C'est peut-être pour ça qu'on dilapide notre argent aussi. Ça doit être lié.
Donc aujourd'hui, vous avez trois enfants,
coup,
trois petits mecs.
On a trois petits garçons. On a Hector, du coup, qui va avoir 7 ans. Georges, qui va avoir 4 ans, du coup. Et Gaston, qui a eu 1 an, là, en novembre.
Ok, trois gars.
Trois gars. Ouais, on n'a pas trouvé le modèle. On n'a jamais demandé le sexe et tout, donc c'était à chaque fois une surprise. Okay. Mais on n'a pas trouvé.
Bah, c'est plutôt à Thomas, non? C'est lui qui détermine le,
bah,
le
après,
chromosome.
Après, moi,
si je
crois que.
Pas.
Ouais, mais après, c'est, maintenant, je crois qu'il y a des, quand même des recherches qui disent un peu aussi que ça peut dépendre de. Alors, je crois que ça dépend à la fois potentiellement de quand est-ce que tu fais crac-crac, etc. Parce que.
Crac-crac, tu dis, toi.
Ouais, crac-crac. Voilà. Non mais je crois que ça dépend
ça
aussi
que
de ça de, je sais plus, ça dépend aussi de l'environnement de l'utérus de machin, enfin voilà, je crois,
ok
après j'en sais, enfin je crois qu'en fait la réalité c'est que personne n'en sait rien,
oui,
et en même temps c'est pas plus mal,
bah oui,
parce que
c'était une vraie volonté de votre part de pas connaître le sexe à chaque fois, de vous laisser la surprise.
C'est rigolo parce que moi en fait c'était une question que je m'étais jamais posée.
Pour vous qui aimez bien cocher les cases et prévoir les trucs et tout.
Ouais, mais alors pour moi qui suis aussi dans la reproduction, en fait, dans ma famille, jamais personne, enfin, personne n'a jamais demandé. Et donc, du coup, j'avoue que c'était même un truc que j'ignorais. Enfin, j'ignorais pas, j'avais conscience, mais j'ignorais que ça, c'était en fait beaucoup plus répandu de demander que de ne pas demander. Parce que moi,
parce que
tu vois.
J'imagine que tu avais quand même plein d'amis autour de toi qui.
Alors,
la plupart des gens savent.
C'était la, enfin, on était parmi les plus. Ouais, on avait 28 ans, tu vois, quand on a eu Hector.
Oui.
Et du coup.
28
on était,
ans à Paris, c'est jeune.
Ouais, c'est très loin. En fait, c'est même dans la moyenne. Je crois que la moyenne de la France, ça doit être à genre 30-31.
Elle est à 29. Ouais, alors, ça a peut-être augmenté,
ouais,
mais c'est 29-30. Ouais, j'ai hanté.
Et après
29,
Paris,
30,
c'est plutôt c'est encore. Ouais. Donc, du coup, on était pas mal en avance.
Okay.
Donc, on n'avait pas. Dans nos potes, pour le coup, on n'avait pas trop. Donc, maintenant, on peut voir qu'effectivement, la plupart des gens demandent. Mais moi, dans ma famille, en tout cas. Enfin, Thomas, dans sa famille, il n'a pas trop vécu parce que lui, il était enfant unique et puis. Et puis après, en plus, ses cousins, ils étaient plus vieux. Donc, il n'a pas trop eu d'enfants, pour le coup. Moi, qui étais l'aîné à la fois de mes frères et sœurs et à la fois de mes cousins-cousines, on a vu une tripotée des bébés et on n'a jamais su, en fait. Enfin, tu vois, c'était toujours quand ils étaient nés qu'on savait, ah, bah, c'est une fille, c'est un garçon et tout. Donc, du coup, pour moi, c'était un peu normal. Et après, on l'a pris comme ça en se disant, bah, en fait, on s'en fiche, fondamentalement. Enfin. Moi, il y a plein de gens, et d'ailleurs, je trouve que c'est une question qui est vraiment très malvenue. Si des gens posent cette question, vraiment, il ne faut pas la poser, de genre, ah oui, mais du coup, enfin, vous allez faire quoi si c'est un troisième garçon, t'es là-bas, je sais pas, on va le rendre. Enfin, tu vois, genre, en fait,
oui,
je ne
fais
pas. Non, mais c'est hyper étrange de dire, ou moi, ou les gens qui m'ont demandé, vous faites un troisième pour avoir une fille. Je dis, bah, alors déjà, ça me paraît être un pari un peu risqué, parce que quand même, c'est 50-50 au mieux.
C'est une chance sur deux. Hein,
c'est pas énorme, comme, tu vois. Et puis à la fin, t'as quand même un enfant. Donc, c'est-à-dire que tu vas pour toute sa life. Donc...
Mais tu sais, c'est un truc dont j'entends parler dans ce podcast. Ouais.
Mais moi, c'est un
truc... C'est une question qui... En fait, où y a des gens qui phasent à un moment donné sur « je veux pas un enfant, oui. Je veux un garçon ou une fille », tu vois.
Après, je peux comprendre quand t'as des histoires... quand t'as eu des histoires peut-être un peu compliquées avec l'un ou l'autre parent, enfin tu vois, en fonction du sexe du parent avec qui t'as eu une histoire compliquée, que tu puisses avoir des peurs comme ça. Mais je trouve que après t'immiscer, enfin ça c'est toi avec toi, tu vois, mais je trouve que dans les questions sociales,
ouais,
enfin socialement acceptables, c'est un petit peu, je trouve qu'on débunk pas mal en ce moment les questions sur oui, il faut pas demander aux gens où est-ce que ça en est les enfants, machin, parce que en fait déjà c'est t'introduire dans la vie privée des gens, c'est extrêmement intrusif comme question. Et par ailleurs, généralement, quand tu reposes la question dans l'autre sens, tu te dis, tu vois, quand les gens ils disent, bah, vous faites quoi si c'est un garçon, t'as vraiment envie de leur répondre, bah, on va le rendre. Ouais, voilà, on va leur dire, non, désolé, on avait commandé une fille, donc, bah, voilà, tu fais un enfant parce que tu. Enfin, moi, en tout cas, je fais un enfant parce que j'ai envie d'avoir un enfant, c'est un garçon, une fille. Après, j'avoue qu'au troisième, je m'étais presque dit, c'est une fille, je suis pas sûre d'avoir le mode d'emploi.
Ah oui.
Tu vois, j'avais presque.
Tu t'es quand même posé la question.
Non, je me suis posé la question en me disant. Je m'étais dit deux choses quand même. Je m'étais dit, faut que quand même je fasse le travail sur moi-même, de me dire. Enfin, vraiment quand même, de me dire, tu vas avoir un enfant, etc. Et pas d'avoir. Je voulais pas avoir une forme de déception, tu vois. Et puis alors, en fait, c'est pas du tout arrivé. Enfin, je sais pas comment dire, de toute façon, c'était... Non, mais tu vois, enfin...
Oui, tu étais quand même un peu... Tu avais quand même pris conscience un peu que, à la fin, il y avait quand même à y avoir soit une fille, soit un garçon, et qu'il fallait faire bien gaffe à vivre l'instant.
Oui, exactement. Mais en fait, finalement, ça s'est fait naturellement, finalement, ça a même pas été une question, mais peut-être parce que je l'avais conscientisé avant, je sais pas, parce que du coup, ça l'a peut-être évacué en amont. Mais je m'étais dit quand même, faut faire attention de pas projeter ce truc.
Oui.
Sur lui, parce que en fait c'est pas moins joyeux, tu vois, c'est une naissance, c'est tout aussi joyeux et tout, mais après de fait, bon, voilà, on n'a pas trouvé la recette pour faire des filles,
tu sais, c'est marrant, il y a plein de mecs qui me posent la question de t'es pas déçu toi d'avoir deux filles, quoi, comme si c'était tellement important d'avoir une paire de couilles à la maison supplémentaire avec un héritier, et puis il y a le truc de l'héritier aussi, l'héritier qui va faire perdurer le nom.
Ah non, mais non, mais après je comprends,
c'est tellement
je comprends
vieux,
aussi,
c'est tellement ancestral comme
après moi c'est vrai que je m'étais quand même dit, c'est pas tant que j'aimerais avoir un garçon, une fille et tout, c'est plus que je pense, et ça me paraît évident que c'est une expérience différente.
Et pour une mère d'avoir une fille, oui.
Ouais. Pour un père, enfin tu vois, c'est sûr que tu. Alors après, chaque enfant, de toute façon, est une expérience différente, qu'il ait le même sexe ou pas d'ailleurs. Mais. Je pense que c'est sûr que t'as une question de lien de transmission qui est un peu différente.
Oui, puis si ta fille, elle va venir se référer à toi en tant que femme, quoi, tu vois.
C'est ça. Non, et puis après,
ce qui amène d'autres questions.
Et du coup, je m'étais dit, j'aimerais bien, dans l'absolu, vivre les deux expériences. Si ça arrive pas, ça arrive pas. Mais donc là, plus le temps passe, moins il y a de chances que ça arrive.
Oui.
Mais bon.
Après, n'oublions pas qu'on peut transmettre à des enfants. Tu vois, tu peux trouver une jeune fille autour de toi avec qui tu peux avoir un lien particulier, à qui tu vas pouvoir transmettre.
Ouais, t'as d'autres choses qui
Y a plein d'autres façons de faire.
Oui, non, mais c'est en fait. Et puis même, tu vois, plus le temps passe, plus je te dis. Mais déjà, je m'étais posé la question pour le troisième, mais je pense que s'il y a un quatrième, je me poserais encore plus la question de me dire, waouh, je suis pas sûre. Là, tu vois, ça me ferait presque un peu flipper. Tu vois, tu pourrais dire mère aguerrie et tout, et je me dirais, putain, là, si c'est une fille, je sais pas ce que je fais là.
Ah, c'est pas. Enfin, moi, je vois mes filles avec leur mère, c'est un truc, hein.
Non, mais moi, je vois même, tu vois.
L'âge adolescent, elles viennent la chercher, quoi.
Ouais.
Elles viennent tester.
C'est... Et puis, t'as aussi des questions. Enfin, tu vois, ça te reflète la question de qu'est-ce que tu veux transmettre. Tu vois, sur, même sur les questions de maternité, etc. Enfin, dans une période, je trouve, où, alors peut-être que c'était le cas déjà avant, mais où t'as quand même beaucoup de foisonnements sur, en fait, qu'est-ce que c'est que le féminisme, qu'est-ce que... Tu vois, je trouve que t'as une... Après, t'as une charge aussi quand tu dois éduquer des gars, hein, parce que c'est...
Bah oui.
Bon, comment tu les déconstruis un petit peu, enfin, oui. T'évites qu'ils se construisent trop, mais...
Puis t'as aussi une charge mentale vis-à-vis de ton mec, éventuellement, du père, pour venir leur dire, hé, hey, c'est à toi aussi, le job, let's go.
Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
S'il n'en a pas conscience lui-même,
bah,
c'est un
vrai taf.
Parce
que, de toute façon, c'est lui, en vrai, le modèle d'homme. Bah, oui. C'est pas moi qui vais proposer un modèle d'homme. Hein,
clairement, ouais, désolé, ce n'est pas ton job, ce n'est pas ton rôle.
Oh non, mais c'est bien, j'ai déjà assez de travail. Faut pas multiplier non plus, mais non, mais c'est vrai que c'est bon, voilà. Mais bon, toujours est-il qu'on n'a pas de fille, pour l'instant, en tout cas, donc on verra.
Qu'est-ce qui fait que tu voulais venir parler de ton rapport au travail, de ton rapport à l'ambition, de ton rapport au, peut-être au succès aussi, je ne sais pas trop comment tu le définis, parce que c'est aussi une vraie question, ce succès,
ah, mais...
ce que ça veut dire, et la maternité.
Bah, alors j'ai plusieurs, en fait c'est un sujet qui me fait beaucoup réfléchir depuis que je suis devenue maman, donc ça fait quand même 7 ans maintenant, donc j'ai pas mal réfléchi au truc. Le constat de base, enfin moi en fait c'est que j'ai été hyper étonnée, donc on revient au manque d'anticipation peut-être, mais je suis rentrée dans la maternité vraiment, la fleur au fusil, en mode bon, j'y vais, j'ai envie de le faire, go, tu vois, hop, avec forcément la construction, je veux dire, on se réfère forcément à nos modèles familiaux, quoi. Et du coup. Moi, j'avais quand même anticipé le fait qu'il fallait justement pas trop anticiper. Je m'étais dit, j'ai conscience que c'est un truc, tant que t'as pas vu, tu sais pas trop. Donc, dis-toi que tu verras. Moi, je m'étais dit un peu ça sur tout, genre pour l'accouchement péridural, pas péridural. Je m'étais dit, franchement, en fait, j'en sais rien. Parce que j'ai jamais vécu ça. Donc, on verra. Et donc sur plein de trucs comme ça,
t'es assez détendu, on verra ce qui se passe le moment venu, quoi.
Ouais, exact. Enfin, je m'étais dit, faut voir et tu verras comment ça se passe et en fonction tu verras. Mais néanmoins, je pense que j'avais une petite, je m'attendais quand même un peu à ce que ça se passe. C'était pas tant que ça, plutôt que je réagisse d'une certaine manière. Et typiquement, moi, j'avais entendu un peu, tu vois. Ma mère m'expliquait que les congés mat, bon, c'était quand même un peu chiant, quoi. Enfin, globalement, que elle avait eu hâte de retourner au boulot, okay. Et d'ailleurs, je l'avais vu, tu vois, parce que j'étais moi, du coup, quand mes frères, ma sœur, on a 3 ans d'écart. Mais
ta mère, juste qui est une avocate.
Ma mère, elle est avocate d'affaires. Ouais.
On en parle dans Histoire d'argent, donc je préfère remettre le contexte. Ta mère, c'est une businesswoman.
Ma mère, c'est vraiment, effectivement, c'est peut-être, faut peut-être d'abord raconter ça. Ouais, c'est qu'effectivement, moi, j'ai grandi donc avec l'image d'une mère. C'est vraiment dans ma tête quand j'y pense, je me dis c'est femme des années 80, tu vois. C'est vraiment ça. C'est working girl, tu vois. Ma mère, elle bossait tard, le soir, globalement, si elle rentrait avant 21h, c'était miraculeux. Enfin, parfois elle. Parfois même, je pense qu'on ne s'en rendait pas trop compte, mais en fait, elle rentrait à 2h du mat ou je ne sais pas. Elle était... nous, on avait une nounou à la maison. À la maison, elle ne dormait pas à la maison, mais je veux dire, globalement, on était... on avait la nounou qui venait nous chercher à l'école.
C'est la nounou qui s'est beaucoup occupée de vous, quoi.
Exactement. La nounou, elle venait nous chercher à l'école. Dans mes souvenirs, en fait, elle s'occupait de nous faire le bain, le dîner, etc. Et mes parents, ils arrivaient... Mon père rentrait souvent, plutôt quand même. Mais tu vois, ils arrivaient, on se couchait à 20h30. Et soit ils arrivaient à peu près là, soit en fait ils arrivaient plus tard, tu vois, mais c'était à peu près ça. Et donc et ma mère en plus, au-delà de ça, c'est je pense au-delà du volume, c'est quelqu'un pour qui le travail c'est extrêmement structurant dans la vie, parce que aussi j'en le comprends parfaitement, elle a grandi avec des parents qui sont comme ça, qui étaient, enfin mon grand-père était également avocat. D'ailleurs, peut-être lié, mais du coup, d'ailleurs, ma mère était avocate dans le cabinet associée avec mon grand-père.
Ok.
Oui, c'était un truc un
affaire
peu...
Affaire familiale.
Ouais, enfin après, c'était pas tout de suite. Elle l'a été, je crois, à 35 ans. Mais, bon. mais en tout cas, et c'est des gens qui ont toujours eu cette valeur de travail. Et notamment, et ça c'est assez progressiste en réalité, notamment pour les femmes. Ce qui était à la fois progressiste pour leur temps, je pense, et alors très progressiste pour leur classe sociale. Parce que dans la famille de ma mère, c'était des grands bourgeois slash aristo. Ma grand-mère, elle était aristo et enfin elle est toujours d'ailleurs. Moi, je sais pas pourquoi. Enfin, fondamentalement, non, mais elle est pas morte quoi. pour autant, ce qui est assez marrant, c'est que mon arrière-grand-mère, donc la mère de ma grand-mère, qui était aristo, elle bossait. Elle était médecin. C'était une des premières femmes médecins de l'université de Rennes. Des médecins du travail. Enfin, truc, c'était totalement décorrélé. Enfin, par rapport à sa classe sociale, c'était assez particulier. Et en plus par rapport à son époque, parce que elle est née, ma grand-mère, elle est née dans les, enfin la fin des années 10 quoi, donc c'était wow. Assez waouh. Oui, c'était la, le travail des femmes, c'était quand même dans la société en général, c'était pas trop le délire. Ma grand-mère, pareil, voilà, enfin elle a fait, enfin déjà elle a fait des études, elle a fait Sciences Po, machin, enfin et donc et dans le couple de mes grands-parents. C'est marrant parce que donc ils se sont mis ensemble à la fin des années 50 quoi. Ils étaient déjà, enfin mon grand-père il le raconte encore aujourd'hui, c'est toujours oui non mais c'est important que la femme elle travaille, qu'elle ait son indépendance financière, etc. Votre grand-mère je l'ai toujours encouragée à travailler et machin. Alors elle avait fait un mi-temps un moment quand les enfants étaient petits, elle était à mi-temps, mais après enfin elle était à temps plein. Enfin
elle faisait quoi?
Elle bossait à la Chambre de commerce de Paris. Okay. Alors, ce qu'elle faisait exactement, je ne sais pas, mais bon, voilà. Mais elle faisait genre des études, tu vois, de notes de cabinet, des trucs comme ça. Okay. Mais...
Donc, on est dans une lignée de businesswoman.
Donc, ouais, et, donc, de businesswoman et de. Bah, et, mais par ailleurs, il faut faire 4 enfants. Enfin, je ne sais pas si c'était. Je ne sais pas si elle le vivait comme une injonction, mais de fait, ma grand-mère, elle a eu 4 enfants, ma mère, elle a eu 4 enfants. Et donc, c'était, en fait, ce n'est pas, entre guillemets, je pense, une excuse, tu vois, que de travailler pour ne pas avoir d'enfant, enfin, tu vois. C'est vraiment, tu mènes les deux de front et tu te plains pas, et c'est vraiment un peu l'ambiance marche ou crève, tu vois. Enfin, ma mère, quand elle te raconte, c'est vraiment ça, hein, c'est pas, ça rigolait pas non plus.
Ok.
Avec plein d'amour et tout, mais néanmoins, c'est, enfin, une certaine exigence, je pense.
Est-ce que t'as été élevé aussi, toi, dans le marche ou crève, alors? En tant qu'enfant, ce qui est peut-être moins, enfin c'est peut-être un peu caricatural de dire marche ou crève dans l'éducation d'un enfant, mais il y a un peu un côté dur au mal, tu vois.
Il y a un côté, ouais, je pense se plaindre, c'est pas trop le délire. mais je pense, je sais même pas si ça a été dit, tu vois. Moi, j'étais très.
C'est rarement dit. Hein.
Ouais, non, mais dit dans le sens, je pense que, alors moi, je pense que j'étais une enfant très. Très adaptable à son environnement. Et donc, du coup, j'intègre très bien les règles et les trucs. Et je pense les attentes. Et de sorte que, typiquement, sur la scolarité, mes parents, ils ont été... L'histoire qu'ils me racontent toujours, c'est que quand j'étais au CP, la maîtresse les avait convoqués en leur disant « Faudrait peut-être arrêter de mettre la pression à Justine, là, parce que... quand même, elle est hyper stressée. Je veux dire, elle a 6 ans, genre, ça se passe très bien. Enfin, on va se détendre. » Et mes parents sont tombés des nues en mode genre, mais on lui met pas la pression en fait. Et moi, je me foutais une pression.
Tu t'es mise toute seule quoi.
Ah, mais toute seule. Mais du coup, toute ma scolarité, tu vois, mes parents, ils ont jamais eu à checker quoi que ce soit. Je veux dire, le truc roulait tout seul. Alors,
enfin, après, tu t'étais mise toute seule, mais t'avais ce modèle de mère qui était genre
je pense,
toute puissante.
Ouais, c'est
quoi,
toute seule, mais pas toute seule. Ouais, c'est là sûr. Où je dis, c'est, je pense qu'en fait, j'avais intégré le truc sans qu'on me le dise. Et du coup, j'avais, tu vois.
Incroyable.
Et du coup, je m'étais juste dit, ok, donc c'est comme ça. Et en plus, t'avais un truc, mais ça, bon, on parlait tout à l'heure de la question de l'héritier et tout. Alors, moi, j'étais pas un mec. Mais néanmoins, t'avais quand même un truc. T'es quand même l'aîné. Et alors l'aîné, chez moi, ça veut dire quelque chose. Tu vois, c'est pas freestyle. Et mes deux grands-parents, c'était des aînés de leur génération, en plus pareil, de cousins. Et donc moi, j'étais l'aîné de ma génération. Et ça, ça déconne pas. C'est un truc, c'est quand même... Ouais, l'aîné, ça monte le chemin, ça te donne le cadre. C'est, tu vois.
Okay.
Et c'est un truc... pareil, c'est pas, enfin, c'est dit et pas dit, mais c'est plutôt dit, je pense, dans la transmission, tu vois, dans le truc de ma grand-mère, tu vois, elle t'expliquait que, bah ouais, elle, c'était une de ses cousins, que machin, tu vois, elle a fait des trucs. Mmh. Et elle a fait des trucs que, pas après, sa sœur, par exemple, elle a pas fait d'études, tu vois, et elle a jamais bossé. Et alors que elle a fait des études, tu vois, Sciences okay. Po, machin, et du coup, tu sens que t'as, bon, voilà, t'as une pression sur l'aîné, qui est probablement liée aussi au milieu, mais de fait, et du coup, t'avais quand même, en plus, typiquement, moi, mon arrière-grand-mère, du coup, ça se disait à l'époque, tu sais, elle avait des préférés. Mais les préférés, en fait, c'était facile, c'était les aînés des générations, tu vois. Donc, les préférés à la génération du dessus, c'était mon oncle. Et après, la préférée, c'était moi. Mais en plus, c'est hyper facile parce que du coup, l'aîné, il coche toutes les cases, tu vois.
Bah oui.
Et du coup, t'as espèces de règles absurdes du type, moi, je disais, non, mais il faut au moins que tu fasses du latin jusqu'en terminale. Pourquoi? Je ne sais pas.
Pour être la préférée.
Non, mais du coup, j'ai fait du latin jusqu'en terminale, alors que j'étais nulle en plus. Et j'aimais pas ça. C'était horrible. Mmh. Et après, je me suis dit, mais en fait, quel enfer. Bon. Mais du coup, effectivement, ça, c'est un peu. Ouais, c'est, en background, ça.
C'est pour
ça,
donner un peu le contexte d'où tu viens.
Ouais, ça donne un petit peu. Ça fait une. Enfin, disons que voilà, ça te donne une forme de pression, je pense, et ça fait que. De fait, moi j'ai fait une très bonne scolarité, de bonnes élèves. J'ai du coup suivi les meilleures études. J'ai fini dans une prépa, j'ai fini dans une école de commerce. Enfin bon, voilà, j'ai suivi.
La filière d'excellence.
Voilà,
comme on dit,
exactement.
En France.
Mais sans jamais trop me poser la question. Après, ce avec quoi je suis d'accord, c'est que bon, moi, ça te ferme. On me dit, le grand truc, c'est qu'il ne faut pas te fermer de porte, tu vois. Donc c'est vrai que ça ne ferme pas beaucoup de portes. Mais. Après, tu te poses pas forcément la question.
Oui.
Oui, en fait, c'est ça. Tu te poses pas la question. Ça t'arrive là.
Est-ce que c'était vraiment en conscience de truc que t'as choisi ou parce que on t'a dit, en fait, c'est
vois,
là-bas qu'il faut aller.
C'est la voie tracée. C'était même pas là-bas qu'il faut aller. C'est si tu peux faire le truc qui est le mieux, eh ben, tu fais toujours le truc qui est le mieux. Et sans te poser la question de est-ce que c'est forcément ce que t'as envie de faire.
Ouais.
Mais c'est plus, c'est le mieux. Alors, ça veut dire que c'est bien. Mmh. Tu vois, on fait le top du top. Et donc, du coup, effectivement, bah, ça te met dans un mood. Et ça rejoint le truc de après, dans l'image de la maternité, de ouais, t'es la girl boss, machin. Et surtout, moi, ce dont je suis beaucoup revenue, c'est you can have it all. Mm. Et moi, je suis convaincue que c'est pas vrai. Mais c'est aussi ce à quoi, au-delà, je pense, de la sphère familiale, enfin, il y a la sphère familiale, et après il y a la société qui s'est rajoutée à tout ça sur les années 80, où on a dit oui, voilà, l'émancipation des femmes, et du coup les femmes elles vont et travailler, et avoir des enfants, tu peux avoir une carrière, 25 enfants, tout va bien, en fait tu surperformes partout, tu fais tout, et en plus il faut que tu surperformes partout. Donc ça te met, je trouve, en fait, une pression de dingue. Et donc là-dessus, moi, j'étais quand même un peu là-dedans.
Oui, puis tu parlais du congé maternité. Tu parlais du congé maternité de ta mère qui avait dit, en fait, c'était à chier, j'avais envie de retourner à l'école, de retourner au boulot.
Bah oui, enfin, tu vois, ma mère, elle s'est jamais arrêtée plus qu'elle ne le devait. Enfin, son histoire favorite, je pense, c'était pour mon frère, donc le quatrième, où la veille d'accoucher, elle était en train de retourner le matelas, parce qu'il fallait absolument retourner son matelas maintenant, tu vois, toute seule, tu vois. Et après, elle te dit, j'ai accouché un mois avant, je comprends pas. Bah, je sais pas, j'ai quelques indices, mais.
Peut-être que ceci explique cela.
Voilà, mais du coup, et ouais, elle bossait. Après, elle a fait des choses quand même, tu vois, elle nous a un peu allaitées, etc. Mais je pense qu'elle s'est jamais complètement posée. Et ça ne remet pas en question le fait qu'elle nous ait voulu, etc. Mais je pense quand même que voilà, c'était pas elle était pas finalement dans le je vais faire des pauses et tout.
Et puis tu disais à quel point le travail était structurant pour elle, donc normal.
Et après, ouais, c'est-à-dire que je pense aussi que ça faisait partie des points où je me suis rendu compte, c'est que je pense que même elle, d'ailleurs, aujourd'hui, elle a pas fait la paix avec ça, mais parce qu'aujourd'hui, elle va te dire, tu vois, aujourd'hui, elle va avoir 60, même pas, elle a 58 ans, elle va te dire, ouais, mais c'est vrai que je regrette des trucs, quand même, machin. Et la réalité, c'est que je pense que c'est pas vrai. Mais parce que maintenant, t'as un revirement aussi social qui te fait...
Tu penses vraiment que c'est pas vrai ou c'est...
Ouais, je pense que c'est pas vrai.
Okay.
Non, je pense que... Mais...
Parce que c'est pas anodin de dire que tu regardes des trucs en tant que mère. Hein,
en fait, je pense que c'est pas vrai pour deux choses. C'est que... déjà, je connais certains de ses collaborateurs. Et je peux te dire que, tu vois, je sais pas comment dire. Il y a plusieurs choses. Je me dis, d'une part, elle met pas en place non plus elle-même dans son travail. Il y a des choses pour genre faciliter le quotidien de ses collaborateurs qui ont des enfants et tout, tu vois. Donc,
ah oui, mais elle, oui, ok, d'accord. Vois, mais c'est peut-être un truc dont elle parle pour elle. Ça veut pas forcément dire que dans le business, elle est prête à faire les efforts-là. C'est pas la même chose. Hein.
Mais non, mais et en fait, je pense que sa zone d'épanouissement. Sa vraie zone d'épanouissement, c'est le travail. Et c'est OK, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement sur est-ce que... Enfin, je pense qu'il y a des gens, en fait, il faut être aussi OK avec le fait que peut-être c'est là où tu t'épanouis. Et je pense qu'elle s'épanouit plus dans le travail que dans la maternité, en réalité.
Et tu crois qu'il y a une pression aujourd'hui sociale qui l'incite à venir dire « OK, peut-être que je n'ai pas été assez... »
Je pense qu'aujourd'hui, elle se pose un peu des questions parce que déjà, elle nous voit... Enfin, elle est devenue grand-mère, donc elle nous voit... Pour l'instant, il n'y a que moi et ma sœur, mais elle nous voit, ma sœur et moi, elle voit qu'on ne reproduit pas exactement ce qu'elle fait, etc. Enfin, je pense que ça la questionne. Et néanmoins, tu vois, et elle a d'autres... Et du coup, elle cherche aussi, je pense, tu vois, à se positionner en tant que grand-mère. Et ça, c'est un gros sujet. Parce que, en fait, moi, mon analyse, tu vois, là, au bout de 7 ans, c'est que je pense qu'elle n'arrive toujours pas à complètement se positionner, mais parce qu'elle n'a pas fait la paix avec le fait qu'il y a des choses qui sont pas des zones d'épanouissement pour elle. Et qu'en fait, et le truc, c'est que nous, en plus, on a vraiment un miroir pour elle qui est, je pense, un peu dur, qui est le miroir de ma belle-mère, la maman de Thomas, qui, elle, est vraiment le profil inverse. Elle est dans une... Enfin, dedication une totalement...
Grand-mère de la mort.
Ah ouais, mais c'est vraiment... elle, sa zone d'épanouissement, pour le coup, c'est les enfants. Et du coup, elle est capable de passer, mais même moi, il y a des trucs que je trouve chiants. Il y a un moment, moi, jouer avec les enfants en permanence, ça me fait chier. Elle, ça la fait jamais chier. Elle pourrait passer la journée entière à jouer avec eux, avec des cubes, des trucs et tout. Elle trouve ça génial, tu vois. Ouais. Et c'est sa zone d'épanouissement. Et du coup, je pense que ma mère, tu vois, là, on est dans le truc de la performance, elle s'est dit, putain, merde, tu vois, genre, en gros, je suis pas...
Pas une bonne grand-mère.
Ouais,
je suis pas au niveau.
Et du coup, elle se dit, je voudrais le faire, mais en fait, de fait, elle le fait pas, elle propose des trucs et tout, mais c'est pas... Et je vois qu'elle est pas... tu vois, je vois qu'elle dit qu'elle va te faire des trucs quand même, oui, mais machin, je passe pas assez de temps, mais en même temps, elle ne s'organise pas pour... Ouais. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas encore elle pourrait pas copier la modalité parce que ça lui irait pas. Mais bon, après, c'est pour ça que je pense que si tu veux, c'est en fait, elle regrette pas vraiment, mais je pense qu'elle le dit un peu.
La mère de Thomas, elle a quel âge?
Elle a 74.
Tu vois, ils ont 15 ans de plus. Et je me dis aussi qu'il y a peut-être un truc qui joue au niveau de la période de vie.
Ah, mais c'est sûr. Après, oui, mais après, tu vois, je pense que t'as des. Comment dire?
Ta mère, elle est encore active. Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais surtout, ma mère, elle est active. Et en fait, surtout, ma mère, elle vit aujourd'hui une période qu'elle n'a jamais vécue avant.
Okay.
En fait, elle a eu des enfants à 23 ans. Donc, elle n'a jamais vécu la vie d'adulte sans avoir à gérer des enfants. Ce que je lui ai expliqué l'autre jour. Elle essayait d'expliquer aux gens que c'était pas tant une contrainte que ça que d'avoir des enfants. Je dis, c'est pas, tu peux pas dire ça à des gens, là, moi, elle dit ça à des potes à moi, qui ont 35 ans et qui vont peut-être se lancer dans un premier enfant. Je dis, en fait, c'est pas la même chose. Ce à quoi ils vont renoncer en termes de liberté, il faut qu'ils en aient conscience. Parce que toi, t'as jamais eu 30 ans, de l'argent, un job, une liberté infinie, parce que t'as zéro enfant. T'as jamais eu ça. Donc toi, tu n'as renoncé, entre guillemets, à rien. Parce qu'en fait, t'es devenu adulte en même temps que t'es devenu parent. Et donc, en fait, en réalité, ça serait te demander de renoncer à cette liberté-là, ta liberté actuelle. Et ça, c'est dur.
Ouais.
Tu vois, enfin, je dis pas que ce qu'elle a fait, c'est pas dur, mais c'est juste pour dire, tu peux pas dire aux gens, c'est pas une contrainte. Parce que si, parce qu'en fait, pour eux, ça va être une contrainte énorme, parce que c'est un changement de vie qui est énorme. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. C'est pas mais.
Oui, c'est juste que son expérience à elle n'a strictement rien à voir.
Moi,
avec...
je ne l'ai pas vécu comme une contrainte. Oui, c'est normal, parce que tu as grandi comme ça. Et que ce n'est pas du tout... Bon, voilà. Mais du coup, je pense qu'elle, aujourd'hui, effectivement, elle découvre la liberté de presque... Là, mon dernier frère est parti en échange en Afrique du Sud. Donc elle était a priori à moitié en dépression d'après ce qu'on dit ses collègues, parce que genre voilà, mais néanmoins bah là, elle vit ses meilleures lives, ouais, en vrai.
C'est sûr.
Elle a de l'argent, elle a des copains, elle fait son truc et puis du coup elle bénéficie d'une flexibilité de ouf et elle trouve ça génial. Mmh. Donc aujourd'hui remettre de la contrainte dessus, c'est compliqué. Mmh. Bon. Mais effectivement, c'est une question d'âge comme tu dis.
Je comprends. Pour revenir à ton expérience du congé maternité, tu disais que toi, t'es arrivé un peu la fleur au fusil.
Moi, je m'étais dit, en fait, c'est au-delà du congé maternité, c'est de même, j'avais quand même une image de dire, ouais, putain, les femmes au foyer, quand même, tu dois te faire chier, qu'est-ce que tu fais quand t'es femme au foyer? Et en fait, mon premier congé mat, j'ai trouvé ça génial. Mmh. J'ai pris plus de temps, j'ai pris Hector, j'ai recommencé à travailler, il avait 6 mois et demi. Et alors, pour deux choses, c'est que déjà, en fait, quand je suis arrivée au bout de mon congé maternité, enfin, tu vois, il avait 3 mois et je me suis dit, attends, là, je suis supposée retourner travailler, genre le laisser. Enfin, 3 mois, c'est vraiment, c'est une crotte, quoi. C'est un truc, tu vois, ça n'a aucun niveau d'autonomie. C'est un truc vraiment animal. Pour le coup, je suis retombée dans un truc hyper animal. J'ai trouvé de te rendre compte, de dire, non, mais en fait, c'est pas possible.
Tu peux pas le laisser aller gambader dans la forêt tout seul.
Ouais, mais il y a un peu de ça, tu vois, de, non, mais en fait, il a besoin. Non, mais avoir ce sentiment de se dire, non, là, il a trop besoin de moi. Mm. Je c'est pas possible de le laisser. Alors bien sûr, parfois t'as pas le luxe de pouvoir faire ça. Hein. Mmh. C'est pas une culpabilisation des gens qui voilà. Ou et puis parfois t'as toi pour te sauver toi-même, t'as besoin de sortir de ça. Mais je m'étais dit déjà d'une part non, et en fait et un autre point, c'est que je me suis découverte me dire finalement c'est bien femme au foyer. En fait non, mais en fait je m'ennuie pas du tout. Je fais plein de trucs. Je vois la vie différemment. Tu vois un peu la slow life aussi d'une. Une part, mais en plus, tu te dis finalement, le travail domestique, c'est du travail. En fait, c'est pas du tout. Et j'ai vraiment. Et finalement, tu vois, à 6 mois, je m'étais dit. Enfin, ce que je m'étais dit, c'est que je voudrais pas recommencer à travailler en me disant c'était horrible. Et du coup, tu vois, je sais que je trouvais que vers 2 mois et demi, 3 mois, ça commençait à être un peu dur. Parce que tu commences à avoir vraiment plusieurs nuits sans sommeil dans les pattes, etc. Tu vois, je trouve que le plus dur, c'est pas le début. Le plus dur, c'est après quelques mois.
Bah oui.
Où là, tu fais le truc. T'as de la récurrence, quoi. Et puis, t'as pas de trop de pause et tout. Et du coup, je trouve qu'il y a eu un moment un peu hard avant qu'il commence un petit peu à trouver son rythme et tout, qui était pile le moment, en fait, où j'aurais dû recommencer à bosser. Mm. Et je m'étais quand même dit, je sais pas, j'avais une intuition de faut pas que tu. Faut pas lâcher au moment où c'est le plus dur, parce que sinon ce dont tu vas te souvenir, c'est que c'était tu es comme ma mère, tu vas te souvenir que c'était horrible et que genre putain t'étais contente de retourner travailler, alors que finalement j'ai passé après ce cap et après c'est devenu tellement doux, tellement super, parce qu'en plus ça correspond aussi avec les moments où tu passes de c'est une petite crotte qui fait pas grand chose globalement il commence un peu à s'éveiller, etc. Et où là je me suis dit mais en fait c'est génial. Et du coup, quand j'ai repris à 6 mois et demi, j'étais super contente parce que je m'étais dit là, j'ai vraiment fait. Enfin, j'ai pas de regrets. Je suis contente de retourner travailler et je me sens que je peux le laisser. Je me sens pas. Enfin, j'étais pas du tout dans cet état-là 3 mois avant, quoi. Et du coup, j'ai vraiment. Et là, ça a commencé à être un petit peu la graine qui a commencé à me faire dire attends, il y a peut-être un. Enfin, en fait, la projection de. Faut bosser, faut machin. Enfin, finalement, pourquoi en fait ? Non, mais tu vois.
C'est pourquoi retourner travailler, tu veux dire ?
Non, pourquoi tu te dis toujours faut absolument bosser, être le meilleur dans ton travail, être le. Et ça a commencé à mettre. Ça n'a pas fleuri tout de suite, mais. Et du coup, je me suis typiquement dit en fait, je me suis rendu compte qu'à chacun de mes congés match, j'avais changé de boulot.
Okay.
Et à chaque fois, je pense, pour retrouver un équilibre, mais qui était j'ai l'impression qu'à chaque fois, j'ai unlock un niveau. Donc, le premier, c'était plutôt de me dire, faut vraiment que je sois 100% intéressée par ce que je fais. Parce que mon alternative aller au travail, c'est d'aller passer la journée avec mon fils. Et donc, faut quand même qu'en face, j'ai une proposition de valeur qui soit cool, parce que sinon, en fait, je vais juste passer la journée avec mon fils. Enfin, ça m'intéresse pas, quoi.
Et donc, t'étais quand même dans un truc, contrairement à ta mère, qui était la vie de maman, c'est trop bien, quoi. Même une fois que t'étais retournée au boulot.
Ah, mais moi, j'ai trouvé ça génial.
Ok, ok.
Enfin,
j'ai trouvé ça.
Non, mais j'ai trouvé.
J'imagine que tu trouves toujours ça génial. Mais...
Oui, non, mais la découverte, ouais. Tu vois, le côté genre, ah oui, en fait, enfin, c'est. Je sais pas comment. Ouais. Oui, j'ai trouvé que tout est génial. Après, je mets beaucoup de, quand même, caveats à ce point-là. Hector était un enfant. C'était genre le. Je sais pas, le poster. C'est l'enfant qui fait que tu vas pouvoir aider Emmanuel Macron à repeupler la France, tu vois. C'est vraiment ça. Franchement, il faudrait faire une pub sur lui, tu vois. Non, mais. Enfin, tu vois, il dormait. Il faisait des nuits de 12 heures, ouais. Il dormait, il faisait des siestes deux fois par jour de 2-3 heures, il était toujours agréable, enfin tu vois, il avait aucun problème, il était jamais malade, enfin c'était vraiment le truc était d'une fluidité, tu pouvais l'emporter partout. Nous, on était assez jeunes, tout, on n'avait pas trop de potes qui avaient des enfants. Et donc, du coup, on l'emmenait en terrasse, on l'emmenait à des teufs. Enfin, tu vois, il a fait sa première teuf à 2 mois, je crois. Enfin, tu vois, il était à côté des enceintes, rien. Enfin, tu vois, les gens trouvaient ça. Mais c'est vrai que c'était un bébé extrêmement facile à vivre. Et du coup, c'est sûr que là, tu te dis, nous, on s'était limite dit, attends. Tous les gens, ils ont l'air de se plaindre là, ça a l'air, mais en fait, finalement, peut-être ça a l'air hyper facile. On pourrait en faire 25. Spoiler, ce n'est pas.
Ce n'est pas arrivé.
Non. Et puis, en fait, on a bien conscience que tous les enfants n'ont pas ce format-là. Donc, ça dépend aussi sur qui tu tombes. Hein.
En tout cas, tous vos enfants n'avaient pas ce format-là. Oui. Finalement, ils ont été cool tous.
Ouais, ils ont plutôt tous été cool. Mais oui, il n'a pas été exactement pareil non plus. Bon, après, ça. Mais aucun n'a été le format. Enfin, on a vu, même chez nos potes et tout, le format vraiment hardos. Qui dort pas, qui est obligé d'avoir des trucs hyper rythmés et tout, ça, j'avoue qu'on l'a jamais eu.
Ok. Donc, t'as déverrouillé plusieurs niveaux, c'est ça que tu disais?
Ouais,
le premier niveau, c'était faut que je fasse un truc qui m'intéresse, voilà. Qui m'importe.
Le deuxième niveau, c'est celui dont on a parlé, en fait, dans l'histoire d'argent. C'est le niveau. Attends, alors en fait, là, j'ai pas assez d'argent pour pouvoir avoir une vie sereine. En fait, je me suis rendu compte aussi, on en revient sur la question de l'argent, que quand même, au-delà du fait de pouvoir assumer financièrement tes enfants, t'as un peu, les besoins de base de les assumer, c'est-à-dire qu'il faut quand même que tu puisses avoir payer une garde, que tu puisses leur payer à manger, etc. Bon, une fois que t'as assuré ça, t'as aussi un autre truc qui est, en fait, l'argent va te permettre aussi d'avoir, moi en tout cas, je trouve potentiellement une maternité plus apaisée, parce que ça va te donner des clés pour t'aider. Je vais donner un exemple, mais avant même que Georges il ait quasiment un an, on n'avait pas de nounou. Enfin, c'est nous qui faisions toutes les sorties de crèche, de trucs et tout. Et en fait, ça, c'est. Alors, tu pourrais te dire, c'est génial. En fait, tu vois la vision. Moi, je m'étais dit, dans la vision, je m'étais dit, bah ouais, c'est génial, tu vas aller chercher et tout, parce que t'es une maman impliquée, machin. Mais sauf qu'en fait, quand tu vas aller chercher, que t'es à l'arrache, parce que t'as dû te barrer d'une réunion en avance, que t'as couru, que machin, que en fait, après, il faut que tu refasses un truc, parce que finalement, t'es à la bourre sur tout ce que tu dois faire, et que t'es en PLS, parce que le métro était en retard, ou je ne sais quoi. En fait, t'es pas dans un. J'étais pas dans une maternité sereine à ce niveau-là. Enfin, du coup, t'es toujours en train de les presser, t'es toujours en train de dire ouais, non, faut faire ça et tout. Ah, mais machin. Et puis, tu vas t'énerver parce qu'en fait, t'es énervé pour d'autres trucs. Enfin, et alors que finalement.
C'est dur de combiner les deux, finalement.
Ouais.
Comme tu disais, c'est dur de tout avoir.
C'est
quoi.
Super dur. Et du coup, et nous, en fait, on était à un moment où financièrement, on pouvait pas se permettre encore d'avoir une, même ne serait-ce qu'une nounou qui faisait pas, enfin pas une nounou qui fait toute la journée, mais ne serait-ce qu'une nounou qui fait tu vois l'heure et demie entre la garderie et le moment où toi tu peux revenir un peu sereinement sans enfin en ayant à peu près bouclé tes trucs et que ça soit pas la galère, et on l'avait pas, et du coup tu jongles, tu fais un peu du semi télétravail avec les enfants dans les pattes, enfin où du coup t'es ni bien dans ton boulot ni bien avec les enfants, enfin
c'est vraiment
mais t'es le cul entre deux chaises, c'est hyper désagréable, je pense, et pour toi et pour eux, Je pense que un des apogées ayant été le confinement, on s'est retrouvé avec Hector qui avait 2 ans et demi, moi j'étais enceinte et on devait bosser, enfin, et parce que Emmanuel Macron avait dit que quand tu pouvais télétravailler, bah tu pouvais également garder tes enfants en même temps.
Incroyable.
Bien sûr.
Quelle vie.
parce que c'est bien connu que en temps normal tu payes des gens pour le faire, pour qui c'est donc leur travail, mais du coup tu peux faire 2 travaux en même temps, c'est pas un problème. Et tu dis, bah non, tu peux pas faire 2 travaux en même temps. Et du coup, et donc ça, plus finalement le fait de dire, j'en reviens aussi aux choses que tu as un peu envie de leur offrir, de dire, bah ouais, mais ça me fait chier, parce qu'en fait, on peut pas se permettre non plus, tu vois, moi je voulais, c'est un truc peut-être con, mais moi je voulais absolument qu'on puisse faire une semaine au ski tous les ans. Parce que, en fait, c'est ce que je faisais quand j'étais petite, et je trouvais ça génial. C'était, je pense, parmi les meilleures vacances, tu vois, c'est mes meilleurs souvenirs d'enfance, les semaines au ski, je trouvais ça super, tu vois. Et de fait, ça coûte extrêmement cher. Avant les 4 ans d'Hector, on n'y allait même plus, tu vois, même nous, enfin, individuellement, on n'y allait plus. Alors qu'en plus, moi, j'adore ça, le ski et tout. Mais parce qu'on pouvait pas. Et je me dis, ça me fait chier, en fait, parce que ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien leur transmettre aussi, la montagne et tout. Et puis, ça me saoule. Et là, on n'a pas l'argent. Donc, le deuxième truc, c'est là, je me suis plutôt dit, faut que t'ailles chercher de l'argent. Et parce qu'en plus, je me suis dit, là, déjà, c'est compliqué. Alors que ils sont 2, mais en plus nous, si on se projette dans une famille nombreuse, je ne vois même pas comment c'est possible, parce que c'est pareil, là on en revient, faut changer d'appart, parce que ça va pas marcher en fait, on est obligé d'aller chercher vraiment plus d'argent. Ça c'était le niveau deuxième niveau, et le troisième niveau c'était pour le coup pareil de se dire plutôt le temps, c'est-à-dire comment j'arrive à maintenant moduler le truc qui permet de maximiser à la fois ce que j'ai comme argent, à la fois ce que j'ai comme temps disponible et le confort de vie, pas dans le sens, pour le coup, pas dans le sens monétaire, mais le confort de vie dans le sens le rythme,
le temps,
tu vois,
ton temps disponible, quoi.
Ouais, le temps disponible,
forme de liberté.
Puis, ouais, et du coup, là, j'ai trouvé finalement, je pense, le job où j'estime que je gagne l'argent. En fait, où je me dis presque, si je gagnais ça toute ma vie, ce serait très bien. Je peux m'arrêter là en termes de progression.
Mais t'es autour de 9000 euros par mois, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Par rapport à ce qu'on avait dit dans.
Exactement. Et alors avant impôt, hein, parce que du coup après impôt
c'est moins la pas la même,
c'est pas la même, mais ce qui est encore une fois tout à fait normal, mais du coup pour repositionner, enfin disons que je n'ai pas 9000 euros qui arrivent sur mon compte en banque en réalité. C'est plutôt je crois que je dois avoir 2000 balles d'impôt au moins, donc ça doit être plutôt
autour de 7
ce qui arrive en trésor. Et du coup, j'ai perdu mon fil. Oui, non, du coup, j'ai à la fois ça et à la fois, j'ai trouvé un taf où j'ai plus de vacances. Enfin, genre, j'ai 9 semaines par an. Ça paraît.
Ah
ça...
ouais.
Ouais. Tu vois, ça, c'est un truc, moi qui ai vécu avec mes 5 semaines de congés payés pendant 10 ans, je me dis, ça, c'est des trucs, tu vois. Enfin, factuellement, je me suis dit, ça veut dire que je peux poser un mois l'été et je peux poser une semaine à toutes les vacances scolaires. Et ils sont nombreuses, les vacances scolaires.
Donc, tu te retrouves avec tes 3 mômes une semaine par. Par vacances.
Ouais, enfin, tu vois, et ça, c'est des trucs que tu peux. Enfin. Et du coup, et aussi une flexibilité dans le sens où, pour le coup, je bossais, enfin, avant d'être dans mon taf actuel, je bossais vraiment en conseil, en stratégie, voilà. Et du coup, tu fais beaucoup de, enfin, tu bosses beaucoup, quoi, factuellement.
Oui.
Non, mais où du coup, si tu veux, là, dans mon nouveau job, globalement, un des directeurs avec qui je travaille, avec qui j'avais passé des entretiens, m'a dit, moi, ce que je te dis, parce qu'il venait, pareil, lui aussi, du conseil en stratégie, il m'a dit, moi, je te garantis tes soirées et tes week-ends. Je lui ai dit, ok, vas-y, top là. Ça me va, tu vois, comme truc de te dire, je te garantis, globalement, sauf très rares exceptions, le soir, t'auras jamais à rouvrir ton ordi, qu'en fait, en réalité, tu peux te casser à 18h30, globalement, quasiment tous les soirs.
Ce qui est incroyable.
Ce qui, combiné avec le salaire et tout, fait que tu
salaire,
te dis...
Salaire, les vacances, t'as trouvé vacances. Un truc assez idéal.
Exactement.
Quoi.
Et là, tu te dis, ok, donc ça me va. Mais tu dois quand même lâcher un petit truc, et ça, c'est dur. Le truc de ce que tu disais sur le sur le succès. Enfin,
le succès, ouais. L'ambition.
Non, ouais, c'est ça. Sur
c'est,
le.
C'est où est-ce que tu le situes? C'est plutôt de l'ambition ou du succès? Parce que ça veut. Le succès veut rien dire, en fait. Tu vois, dans l'absolu, j'ai. Donc, c'est ce podcast qui s'appelle Histoire de succès.
Ouais. Oui, souvent, le succès, c'est là où tu le mets.
Les, ouais. les invités m'interrogent sur pourquoi tu m'invites. Et je dis parce que pour moi, tu as du succès. Et eux, ils n'ont pas l'impression d'avoir du succès.
Qu'est-ce que tu appelles le succès? Oui, je comprends.
Et donc, ça veut rien dire dans l'absolu, mais qu'est-ce que ça veut?
Bah, je pense que je sais pas si c'est. Je sais même pas si c'est l'ambition. C'est là où je reviens à mon truc de. Ouais, faut faire le meilleur. Faut être le. Ce que tu peux faire, c'est le. C'est faut faire le meilleur tout le temps. Et c'est un truc qui reste hyper internalisé chez moi. Mmh. Et du coup, c'est très dur de me dire, de déconstruire un peu ce truc-là et de me dire. Ouais. J'arrive à me le dire consciemment, mais ça n'empêche que tu vois, quand tu vois, en plus. Enfin, encore une fois, moi j'ai fait. J'ai fait des grandes écoles et tout, et du coup, il y a plein de gens que je connais, tu vois, qui sont des gens qui, en fait, là en plus, on commence à avoir entre 10-15 ans d'expérience. Donc là, au début, ça te voit pas trop, parce que bon, quand t'as 25 ans, voilà. Mais.
Allez, il commence à y avoir des,
là, tu commences
dire,
à
y a
avoir
des écarts
des
avec tes potes de promo et tes potes femmes, j'imagine.
Bah, ouais. Tu vois. Moi, dans une mec qui était dans ma promo, elle est aujourd'hui à la tête de la French Tech. T'as des gens qui ont monté des boîtes, t'as des gens qui sont partenaires dans des trucs, voilà. Mais pas tout le monde en plus, si tu veux, tu le sais pas, c'est pas forcément le truc.
Mais toi, tu vas plutôt regarder ceux qui sont le plus topé.
Ne serait-ce que, en fait, je sais pas, tu vois, t'as quand même le truc du bon élève, qui se dire, genre, ouais, en fait, tu vois, t'aurais pu être.
T'aurais pu? Tu te dis vraiment ça?
Non, je me dis pas j'aurais pu, mais tu dis genre en fait voilà, enfin t'as fait, faut être vachement ok aussi avec tes choix, tu vois. Moi c'est ce que je me dis, c'est en fait, et c'est là où je reviens à, non, tu peux pas have it all en fait. Disons que tu fais forcément des comptes, et je trouve que c'est vraiment un message à faire passer, parce que je trouve que ça culpabilise, enfin c'est hyper culpabilisant de te dire ouais je pourrais tout avoir, machin, et du coup si j'ai pas tout c'est que genre j'ai pas bien fait, alors qu'en fait je pense que non, c'est juste que tu as fait, tu ne peux pas, c'est faux de dire que tu peux tout avoir. Faut se dire que en fait les gens qui sont arrivés à un certain niveau, que ça soit dans la vie pro ou dans la vie perso, peu importe, il y a un moment ils ont fait des choix
et des sacrifices,
et ouais, et choisir c'est renoncer. Et disons que tu vois, sur la question que je me suis posée sur mon nouveau job, je me suis dit, qui était aussi une question de couple, tu vois, de se dire, Thomas il avait pris un job pour le coup plus prenant, etc. Et aussi à un moment, en équilibre de couple, on s'est dit, bah, opérationnellement ça marche pas. Et après t'as un choix. C'est, le choix c'est, sinon, enfin t'as des gens qui le font, hein, mais c'est pas un jugement, c'est, le choix c'est, le modèle il peut marcher. Si tu, entre guillemets, externalises, tu vois, si tu te dis, bah, je vais prendre des nounous jusqu'à 21h, je vais, tu vois, déléguer les vacances, les trucs, etc. Ça peut être un choix. Et ça va te permettre de te libérer du temps pour faire aussi ta carrière professionnelle et tout. Mais du coup, enfin, tu renonces aussi à du temps avec tes enfants, tu renonces, voilà, et c'est pas un jugement. Enfin, je dis encore une fois, tu peux vouloir le faire, et ça veut pas dire que tes enfants, ils vont forcément finir traumatisés à vie. C'est juste que c'est un choix que t'as fait. Oui, de toute façon, ils finiront tous chez le psy en tant que membre, parce qu'on aura tous raté quelque chose, je veux dire.
Tout à fait.
Mais tu vois ce que je, enfin, de te dire finalement, tu peux, enfin, tu peux pas tout avoir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la ressource, elle est limitée, que ça soit la ressource en temps, que ça soit, enfin, et du coup, enfin, une fois que tu te rends compte que la ressource est limitée, là où tu alloues ton temps, c'est toi qui choisis, et tu pourras pas tout faire. Et si tu fais tout, en tout cas moi c'est mon impression, c'est que à vouloir tout faire, c'est là où tu finis en burn total, enfin, je veux dire, à te dire ouais, mais du coup faut absolument que,
et surtout à vouloir tout faire dans l'excellence.
Oui.
C'est aussi à vouloir tout performer. C'est pas qu'à tout faire, c'est à tout faire 300%.
Mais parce que, alors, en plus, je suis d'accord, et ça faisait partie d'ailleurs des points que je m'étais noté, c'est que en plus, sur ce truc de la performance, moi j'ai été élevée, je pense qu'il y a plein de gens dans ce truc des années 80 aussi, justement, sur la performance dans le travail, c'est vraiment. Enfin, le travail est forcément ta zone d'accomplissement, de
Bernard
la vie,
Tapie.
T'es là. Ouais, finalement, moi, non. Enfin, tu vois, moi, je. Moi, j'aime bien ce que je fais et tout, mais je suis très à l'aise avec le fait que si demain je gagne Euromillions, les gars, vous me revoyez pas. Hein. Enfin, je vous aime beaucoup et tout, j'aime bien ce qu'on fait, mais le travail, c'est pas ma zone d'épanouissement. Mais et donc déjà déconstruire ce mythe de forcément tu vas t'épanouir dans le travail, c'est pas forcément vrai et ça peut être ok. Hein, enfin,
voilà.
Et après t'as un autre truc et j'avais lu quelques articles récemment là-dessus sur. Je pense qu'en plus en ce moment t'as un trend de genre vraiment le parent parfait. C'est que maintenant, tu as une question de performance qui est associée aussi à la charge parentale. Et du coup, c'est chaud. Hein. Franchement, genre moi, même en tant que parent qui bosse, et je pense que c'était pas mal venu et tout, mais tu vois, tu prends parfois des réflexions, des profs et tout, t'es un peu là, genre... tu as torpille dans ta gueule, tu vois. Non, mais franchement, je sais pas, moi, j'avais eu l'année dernière... bon, il y avait un sujet avec la nounou, je sais plus, parce qu'on est une nounou qui est extrêmement sympa et tout, mais du coup, aime bien distribuer des bonbons aux enfants, mais y compris à d'autres enfants que nos enfants. Enfin, donc, du coup, évidemment, c'est la nounou préférée de tous les enfants à la sortie de l'école, forcément, vu qu'elle leur distribue des bonbons. Bon, évidemment, c'est pas forcément. Il y a un moment où je sais plus.
C'est pas recommandé par l'Association française des dentistes, machin.
Mais, non, et puis même après, t'as des parents et tout. Bon. Oui, le truc nous est revenu, machin, mais le truc nous est revenu, tu vois, à un moment, genre directement, genre par la directrice. Genre. Et donc, du coup, on a pris rendez-vous après avec la maîtresse d'Hector et tout, en lui disant, en fait. Pourquoi escalade immédiate en gros, genre vous pouvez nous en parler, enfin genre littéralement il y a un carnet de liaison, c'est fait pour ça, tu vois. En fait nous on est dispo et tout, et la réponse de la nana était de nous dire bah oui mais c'est vrai que je voulais vous en parler mais vu que je vous vois pas à la sortie.
On vous voit pas à la sortie.
Et t'es là, bah oui, mais enfin moi, excuse-moi, je suis pas là à 16h30, tu vois. Enfin, et en fait, bah oui, il y a plein de parents qui sont là à 16h30 et tout, et c'est très bien, et tant mieux pour eux, mais
Et vos enfants, ils ont pas cours le samedi, enfin, ils ont pas école le samedi.
Non, il n'y a pas école le samedi et tout, donc effectivement, et en plus, donc t'as un peu des trucs comme ça, où genre, pareil, enfin, tu vois, j'avais eu un moment, au début de l'année, genre, qui est tombé dans la cour. Bon. Et donc, la maîtresse m'appelle en disant oui, il est tombé dans la cour, etc. Je lui dis ah bon, d'accord, mais ça va. Elle dit oui, ça a l'air d'aller, mais voilà, je vous appelais parce que je voulais savoir ce que vous vouliez faire. Donc là, tu vois, il était 14h, moi j'allais rentrer en réunion, je dis ce que je veux faire. Elle dit je sais pas si vous voulez venir le chercher et tout. Je dis
Mais il s'était fait quoi? Il était juste tombé ou
il était tombé, il avait signé un peu, mais elle m'a dit non, mais ça va bien et tout. On lui a mis de la glace et tout, et puis là, ça va bien. Je dis, du coup, ça va bien. Mais du coup, tu vois, ça m'a mis la culpabilité en mode, genre, j'étais un peu là. T'es en train de me dire, tu vois, j'avais l'impression qu'elle me dise, tu viens pas le chercher. C'est que, tu vois, genre, un peu, t'étais pas un bon parent. Et j'étais un peu,
étonnant.
En fait, je ne comprends pas. C'est-à-dire que si tu me dis finalement il va bien, tu me dis quoi? C'est que genre je devrais venir, mais que je peux pas venir parce que là tu me préviens.
Tu lui as pas demandé aussi clairement?
Non, parce que j'étais un peu prise de court, tu sais. C'est le moment où, après, a posteriori, t'as plein de trucs qui viennent.
Oui,
et sur le coup, j'étais un peu genre, je sais pas. En gros, si ça va bien, écoutez, il est 14h. En vrai, ça finit à 16h15. Yalène, qui vient le chercher, s'il va bien et tout, il est tombé. Enfin, tu vois, genre.
Ouais.
Et puis le fait est qu'il allait très bien et que machin. Et d'ailleurs, le fait est que cette maîtresse est extrêmement bienveillante. Et depuis, je l'ai.
Ça venait d'une bonne intention, sans doute.
Exactement, et je pense pas du tout. Et en plus, c'est une nana qui s'est reconvertie un peu sur le tard et tout. Donc je pense qu'elle a pleinement conscience de tout ça. Mais tu vois, c'était un peu sur l'autre. Et du coup, t'as une forme de culpabilisation. Pas forcément violente dans le sens. Où c'est pas pointé du doigt et dire vous êtes tel parent et tout, mais c'est vrai que ça te met une petite pression, tu vois, de dire mais c'est vrai que, ou il est un peu malade, du coup c'est mieux qu'il reste à la maison, et t'es là, reste à la maison, moi je travaille en fait, donc ça implique beaucoup de choses opérationnellement.
L'un des trucs que j'entendais dans ce que tu me disais de finalement j'ai trouvé un job où je me dis je pourrais rester comme ça tout le long de ma carrière en termes de salaire, etc. Est-ce que t'as aussi ce truc de te dire peut-être qu'il faut que je rabote entre guillemets mon ambition et que je pourrais pas aller accéder à des jobs plus hauts, en tout cas pas tout de suite,
et que alors, oui,
t'as un
et
peu
non.
Un truc ambivalent par rapport à ça.
Oui et non, dans le sens où en fait, je pense que mon je pense que je n'ai pas une ambition personnelle. C'est là où, tu vois, c'est et ça revient à ce qu'on se disait, mais c'est que je me rends compte qu'en fait, quand je me dis je rabote machin, je rabote pas vraiment.
OK.
Parce qu'en fait, moi je suis je suis très bien là où je suis.
Non, mais je parle entre... Là, j'ai bien conscience que c'est ton conscient qui parle, mais il y a ton inconscient et ton... Comment dire, et ton éducation aussi, tu vois,
oui,
qui te fait
ça.
Dire qu'il faut aller chercher plus haut, quoi.
Mais exactement, mais c'est du coup, c'est là et où je me dis que mon ambition, finalement, elle n'est pas... je pense qu'elle n'est pas liée à... Enfin, justement, tu vois, elle est plus... J'ai l'impression que c'est un truc qui m'a été... qui est sous-jacent et tout, mais qu'en fait, si je me pose vraiment la question de « mais vraiment, est-ce que tu as envie d'y aller ?» Ben, je pense que non.
Okay.
Et c'est là où, du coup, finalement...
En tout cas, pour l'instant. Ça peut peut-être changer.
Exactement.
Quand tes gamins seront plus grands.
Après, peut-être c'est une question de focale. C'est peut-être cette question-là de te dire, en fait, il y a un moment... Et c'est vrai que je ne sais plus qui me disait ça, mais en fait, il y a un truc qui est un peu mal foutu, il faut le dire, dans la vie, c'est que le moment où tu es supposé exploser dans ta carrière, machin et tout, c'est le moment où tu fais des enfants. Et donc, c'est là où c'est hyper dur.
Ça, pour le réarmement démographique, c'est compliqué.
Faut choisir. Et du coup, tu te dis, bah ouais, mais c'est effectivement dur de mener les deux choses de fond. Peut-être qu'effectivement, c'est juste que mon cerveau est limité et se dit, en fait, pas capable de mener tout de fond, donc tu fais une focale sur les enfants.
C'est pas une question de limitation, je crois. C'est juste une question de moment de vie, mais je crois qu'on le dit pas assez. C'est-à-dire que j'ai interviewé Fred, qui est un père, qui a été, lui, entrepreneur toute sa vie, jusqu'au moment où il a eu des enfants. Et aujourd'hui, ses enfants ont genre 15. Enfin, tu vois, ils sont grands, ils ont plus vraiment besoin de lui. Et en fait, il remonte sa boîte. Il était salarié, il s'est arrêté.
Il
était salarié dans un truc en plus qui l'épanouissait et tout.
Cool, quoi.
Et là, aujourd'hui, il se dit, non, mais en fait, je retrouve du temps. Mes enfants sont grands. Il y a sa fille qui a Claire Fontaine qui veut devenir footballeuse pro, tu vois. Donc, il l'a pas non plus à plein temps. Il se dit, bah, je me relance dans une boîte et ça y est, c'est à nouveau mon moment.
Ouais, c'est peut-être, des trucs, t'as raison. Mais du coup, après, t'as aussi, moi, j'ai eu une conscience à un moment, je sais pas comment c'est arrivé, mais de me dire, grosse révélation, mais le temps, il passe putain de vite, en fait. Et du coup, le temps que t'as avec tes enfants, il est extrêmement limité à l'échelle de ta vie et à l'échelle de leur vie.
Oui.
C'est-à-dire que, je veux dire, au meilleur des cas, j'ai une copine qui m'a dit ça un jour, elle m'a dit, franchement, au meilleur des cas, t'es sa personne préférée pendant 10 ans. Après, sa personne préférée, ça sera son meilleur pote, sa meuf, ses collègues. Enfin, tu vois, il voudra passer plein de temps avec d'autres gens, mais genre, tu ne seras plus sa personne préférée. Là, déjà, je me l'étais dit, genre, putain, elle a trop raison. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que je me suis dit, en fait, tu vois, Hector, il a 7 ans. Putain, en fait, dans 7 ans, il a 14 ans, tu vois. Et là, les 7 dernières années, elles sont passées tellement vite. Fait, genre, entre le moment où il est né et le moment là où il a 7 ans, je me dis, waouh. Et du coup, je me dis, putain, les 7 d'après, en fait, il rentre au lycée. Et après, bah, après, il va se casser. Et puis, il va me dire, salut les parents, vous êtes bien gentils.
Ciao.
Non, mais voilà. Et du coup, finalement, tu te dis, franchement, quand bien même t'en fais plusieurs, etc. Globalement, t'as 20 ans de ta vie. Bah, sur 80, on va dire, on va espérer. C'est pas beaucoup, tu vois. Et du coup, moi, je me dis aussi, c'est un peu, peut-être dans la même logique que ce qu'on racontait sur l'histoire d'argent, mais faut en profiter parce que ils auront plus jamais 5 ans, tu vois. Enfin, ça passe. Et puis, alors que, effectivement, peut-être pour rebondir sur ce que tu disais sur ton invité, c'est, tu pourras remonter une boîte.
Ouais.
Mais... tes enfants, ils n'auront plus jamais 5 ans.
Exactement. Je trouvais ça trop bien, son témoignage. Parce
ouais,
que je crois que moi, ça m'avait...
Je vais l'écouter, franchement.
Ça m'avait échappé.
Oui, non, mais je suis d'accord que ça te remet un peu les choses aussi en perspective. Et je pense qu'en fait, moi, c'est ça que... ce que la maternité m'a vraiment aidé à faire, c'est de remettre le travail en perspective. Et de me redire, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte, le travail. Et la perspective, elle n'est pas la même pour tout le monde. Je veux dire, il y a des gens pour qui c'est vraiment la zone de réalisation personnelle. Du coup, pour eux, forcément, je comprends que ça soit peut-être beaucoup plus important.
Oui, puis t'as aussi cette chance, toi, en venant d'une grande école et tout, d'être capable de choisir ton job et d'être capable de, d'aller là où tu veux, quoi. Ce qui est un privilège.
Ce qui est un,
incroyable.
Bah, ce qui est un privilège incroyable et de se dire aussi que tu peux, enfin, et d'avoir aussi, c'est un autre point, c'est tout ça, c'est un projet aussi de couple, c'est aussi d'avoir quelqu'un sur qui tu peux te reposer pour te dire, parce que tu pourrais peut-être pas faire exactement les mêmes choix si t'étais tout seul, etc. Enfin, c'est sûr que, et là d'ailleurs, moi c'est à chaque fois ce que je me dis quand j'entends, je pense que tout le monde se dit ça une fois qu'il devient parent, c'est il voit les parents solo et il se dit waouh, putain, c'est genre respect éternel, infini, enfin genre gérer tout seul, que ce soit financièrement, opérationnellement, émotionnellement, machin, ouf. C'est un respect, mais moi, infini. À chaque fois que je vois des nanas qui me disent qu'elles sont maman solo, je leur fais. Ok, bah franchement, chapeau, parce que je sais pas comment tu survis en fait. Moi déjà, j'ai l'impression de sortir la tête de l'eau de temps en temps, mais je. Ouais.
Je voudrais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités. Si tes trois garçons écoutent ce podcast dans 10 ans,
qu'est-ce que je leur dis? Ah ouais, en fait, j'ai pas du tout réfléchi à cette question. C'est parce que j'écoute pas assez l'histoire de Daron.
Ils auront 17 ans.
Ah, c'est chaud.
14, c'est ça?
14 et 11, ouais, ils seront encore petits. Enfin, petits relativement, non. Quoi. Mais, non, mais ils seront
ils
pas encore.
Plus grands que
ils
toi.
Seront pas. Ah, bah oui, ça, c'est sûr. Le challenge est pas très, très important. je leur souhaite. Qu'est-ce que j'ai envie
17 et 14, c'est plus petit. Hein
ouais. Non, c'est rien que c'est plus petit. Mais j'espère que. Enfin, je voudrais leur dire que déjà, on a fait de notre mieux. Enfin, moi, genre, je pense qu'on aura fait de notre mieux. Qu'on n'est certainement pas des parents parfaits, mais qu'en tout cas, on a essayé de trouver, je pense, l'équilibre qui pourrait convenir. Après, certainement, ils vont nous dire que à 14-17 ans, je pense que vous nous direz que ouais, de toute façon, quand même, on est naze et qu'il faudrait que vous alliez chez le psy. J'espère que vous direz ça, parce que ça voudrait dire que vous êtes ouvert au fait d'aller voir un psy. Et du coup, je vous encourage et que non, et que je, en tout cas, ça nous a ouvert plein de perspectives. Et je pense que s'ils n'avaient pas été là, moi, j'aurais pas réfléchi à la vie de la même manière. Voilà.
Merci, Justine.
Rien.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.